2%. C'était Rémi De Michelis, Investir pour RFI.
Merci Rémi, en direct de la Bourse de Paris qui donc a cédé 0,24%. Le dernier hommage à l'ambassadeur d'Italie tué en République démocratique du Congo, c'est un hommage national qui est rendu aujourd'hui au diplomate mort en début de semaine dans une attaque au Nord Kivu. Le président du Conseil, Mario Draghi, a assisté aux obsèques ce matin dans une église de Rome. Enfin, nouveau changement pour le match de rugby France-Écosse dans le cadre du tournoi des Six Nations. Le Covid aura eu raison de ce match qui était prévu dimanche au Stade de France et qui est finalement reporté sine die. C'est la fin du journal. Très bonne journée sur RFI.
Radio G. 101.5 FM.
Et bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse, la quotidienne consacrée aux découvertes, aux actualités, souvent culturelles, très souvent locales, même si on sait que tous les agendas sont bouleversés en ce moment. On est jeudi et c'est le dernier jour pour cette émission, on est presque à la fin de semaine, pour vous également. Ensemble ce soir, nous allons entendre un reportage sur le dispositif du service civique. C'est un rendez-vous hebdomadaire du jeudi. Nous serons cette fois-ci avec l'autre radio en Mayenne. Et nous parlerons également de littérature avec Luc et sa chronique dans le bruissement des feuilles. Je vous laisse en suspens sur la thématique de cette chronique, mais sachez qu'on va ouvrir l'émission avec, donc ce sera dans quelques minutes à peine. Exceptionnellement ce soir, il n'y aura pas d'étoiles plein les yeux, la chronique cinéma où Margot nous parle de mise en scène, car on a le droit, même quand on fait de la radio, de prendre des vacances. Maintenant, vous savez tout sur l'équipe qui a fabriqué cette émission. Derrière le micro, bien sûr, c'est Annelie. Vous savez tout ce qui vous attend aussi pour les 40 prochaines minutes. J'ai bien sûr choisi un proverbe pour ce soir, comme pour tous les autres soirs. Et aujourd'hui, je peux vous dire, l'hirondelle ne fait pas le printemps. Je l'ai entendu tout à l'heure et je me suis dit, je la partage avec vous ce soir. Pour ouvrir cette émission en musique, comme à notre habitude, j'ai choisi un titre très récent, mais d'un groupe qui n'est plus si jeune que ça. On va écouter un titre de Arab Strap. Alors c'est un groupe de rock indépendant, originaire d'Écosse. Un groupe que vous avez pu entendre à partir du milieu des années 90. Même, on dit même que c'est un groupe culte. En tout cas, Arab Strap, c'est un groupe qui s'est dissous en 2006. Et pourtant, le titre qu'on va écouter vient tout juste de sortir, le 17 février pour être très exact. Il s'intitule « Here Comes Comus ». Et on avait pu les entendre également à l'automne 2020 avec un autre titre, « The Turning of Our Bones ». C'est un premier titre après 15 ans de pause. Alors ils avaient fait des concerts ensemble, ils s'étaient retrouvés à différentes occasions, mais il n'y avait rien eu en termes de sortie de nouveaux titres depuis 15 ans. Alors oui, le groupe a annoncé la sortie de leur 7e album. C'est donc une reformation. Je ne sais pas si elle sera durable. Mais vous pourrez entendre Arab Strap avec l'album As Days Get Dark, comme les jours deviennent sombres, qui sera composé de 11 titres et qui sort le 5 mars. C'est très 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 bientôt. Musicalement, il nous annonce, je cite, « désespoir et obscurité, mais d'une façon amusante ». On espère que ces retrouvailles seront heureuses d'une certaine façon. Après, on reste toujours dans l'ambiance mélancolique du groupe, même s'il y a toujours l'énergie du rock. Et on va écouter leur dernière sortie, Here Comes Comus, dont vous pouvez voir le clip en ligne. Il est très bien réalisé, très bien filmé. Après, je l'ai trouvé assez dérangeant car on suit un personnage dans la nuit, un jeune homme qui est sous emprise. Alors, c'est une fiction aussi, on ne sait pas trop de quoi, mais c'est un peu violent quand même. C'est bien filmé malgré tout, mais je vous préviens. Voilà. Après, même il y a même une petite affiche quand on commence le clip pour nous dire qu'il est pas si agréable, mais la musique est super et on ouvre avec ça. Full-time flop, cocksure and vain. une nouvelle chronique littéraire avec dans le bruissement des feuilles. Bonjour Luc.
Bonjour Annie. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette chronique « Black is Black » avec un point d'interrogation. J'y ai ajouté un sous-titre « Comment peut-on savoir qu'un auteur est noir ?» En fait, tout est parti d'une réflexion que je me suis faite. Est-ce que l'on peut reconnaître la couleur de la peau d'un auteur ? Bon, cette interrogation, elle peut paraître politiquement incorrecte. Pourtant, elle mérite sans doute que l'on s'y attarde. Tout a démarré après la lecture d'un roman américain de Percival Everett, « Désert américain », publié chez Actes Sud. C'est un roman que j'avais sorti de la bibliothèque de Dunkerque à l'époque. À l'époque, j'étais nordiste et j'ai bien fait d'en partir apparemment vu l'actualité. Comme je le fais très souvent, je prends des livres un peu au hasard parce que la couverture me plaît, parce que le nom de l'auteur m'interpelle. On s'offre les surprises que l'on peut. Et de Percival Everett, à l'époque, je ne savais rien et j'en avais jamais entendu parler, mais je trouvais ce nom étrange par le fait que d'ailleurs on ne distingue pas ni le nom ni le prénom. Et ce roman m'a foudroyé. En fait, de quoi ça parle ? Théodore Larue, ça c'est encore un nom très étrange, non ? Professeur d'université, quarantenaire désabusé, est en chemin pour se suicider. Mais hélas, il est percuté par un camion. Dans l'accident, il traverse le pare-brise de sa voiture et se retrouve allongé sur la rue, tout simplement décapité. Pour le rendre présentable, les services funéraires vont lui recoudre grossièrement la tête. Mais en pleine cérémonie, il se redresse et s'assied dans son cercueil. Cette situation, plus qu'étrange, va, bien qu'il soit mort, déclencher chez lui des sentiments particuliers. Il va tout d'un coup se sentir plus aimant, plus empathique, mais aussi plus puissant. Mais dommage collatéral de cet événement extraordinaire, il va être entraîné dans une succession de péripéties. Tout d'abord, les médias qui vont se précipiter sur ce phénomène et le traiter à la sauce média. Et puis, il va être enlevé par la secte chrétienne de Big Daddy, qui, sans surprise, le prend pour le diable. Enfin, les services secrets américains vont s'emparer de lui pour faire étudier son cas par les plus grandes sommités scientifiques. Jusqu'à une fin que je ne dévoilerai pas, mais qui est une fin de roman comme j'en ai rarement lu. Percival Everett écrit depuis 1983, mais on le connaît en France que depuis 2004 avec la traduction chez Actes Sud de son roman « Effacement ». Concours de circonstances, le personnage principal d'Effacement s'appelle Thelonious Monk Ellison et ça nous renvoie donc à la chronique précédente. Mais revenons au sujet de cette chronique. Est-ce que l'on peut reconnaître la couleur de la peau d'un auteur ? Parce qu'après la lecture de Désert américain, j'ai cherché à en savoir plus sur cet auteur. Je suis allé sur Internet, comme tout le monde, et j'ai trouvé des photos. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il était afro-américain, alors que pendant toute ma lecture, inconsciemment pour moi, c'était un auteur blanc qui écrivait. Qu'est-ce que ça change, tu vas me dire, si le roman est bon ? Eh bien, beaucoup de choses, puisque c'est un débat de fond, et que c'est par ailleurs le sujet du premier roman traduit en français de Percival Everett, Effacement, c'est ce sujet-là qu'il aborde. Et c'est un sujet, un débat qui a lieu aux États-Unis de manière très vive. Souvent là-bas, les auteurs noirs sont classés dans les rayons « black fictions ». Il y a bien sûr des raisons objectives. C'est le résultat de ces années de combat des noirs pour être reconnus en tant que tels. Mais d'un autre côté, des auteurs aussi éminents justement que Percival Everett, aussi Colson Whitehead, aussi Ellie Harris, revendiquent eux de n'être considérés que comme des auteurs, des romanciers à part entière. Et c'est là que se situe le paradoxe, parce que, partant de ce postulat, ils sont considérés comme des traîtres. Les combattants pour les droits des Afro-Américains, considérant que leur identité primait, que les livres des auteurs noirs doivent poser la question de la place des noirs, prison, ghetto, dans la société. Surtout que si ces auteurs ont pu accéder à la notoriété, c'est grâce au combat mené par la communauté. Le problème est donc qu'ils vivent la situation de transfuge. un peu comme l'a défini Rosemarie Lagrave dans son livre « Se ressaisir, enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe », livre qui vient juste d'être publié à La Découverte. Et donc, ce statut auquel ils ont pu accéder est le résultat d'un lent processus qui fait qu'ils se sont libérés des assignations auxquelles ils étaient soumis pour arriver à une forme de normalité, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Le livre s'appelle « Désert américain », il est de Percival Everett et il est publié aux éditions Actes Sud.
Bon, ça donne d'abord envie de lire ce livre. Ah. Tu soulèves plein de questions dans cette chronique. Moi, déjà, le résumé, ça donne envie de le lire. C'est un livre qui est sorti il y a longtemps ?
Alors, il est publié en 2003. Je pense qu'il a été publié aux éditions Actes Sud en 2003.
Ça me donne un ordre d'idée. Ouais. Et en termes de nombre de pages ?
Oh, c'est, je pense, 320, 340 pages à peu près.
Bon, ça va. Ouais. Et alors, est-ce que sur cette question de faut-il connaître ou est-ce qu'on peut deviner la couleur de la personne qui a écrit un livre ? Est-ce que toi, tu as une réponse ou...
Ben, moi, j'en ai... c'est une question vraiment qui m'a... c'est la première fois que je me posais cette question. Vraiment, je me l'étais jamais posée avant parce que chaque fois que j'ai lu des romans d'auteurs noirs, et tout particulièrement d'auteurs noirs américains, c'est des romans qui posaient la question de la revendication ou de la situation sociale ou de la situation politique. Et donc, nécessairement, ben, le postulat, il était posé. Mais quand on lit des gens comme Percival Everett ou Colson Whitehead, par exemple, eh ben, c'est quasi impossible de se dire cet auteur-là est afro-américain, parce que il se revendique auteur et seulement auteur. Il se revendique rien d'autre qu'auteur. Et c'est vraiment, ça a été un débat. Enfin, c'est un débat très très fort. Hein. Ça, il y a eu beaucoup de rencontres, de séminaires, de réflexions autour de ces questions-là. C'est une question qui n'est bien évidemment pas tranchée.
Et c'est bien de se pencher dessus et d'y réfléchir. Et je pense qu'il y a plein de façons de l'observer. Bien sûr, les choses sont jamais si simples. Il y a beaucoup de nuances. Oui. En fait, ça pose la question des identités des personnes qui écrivent. Est-ce qu'il faut les connaître ou non ? Est-ce qu'on peut se poser la question avec la couleur, la classe sociale, les orientations sexuelles ? Il y a énormément de choses, en fait, le genre qui peuvent rentrer en compte. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?
Exactement. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre ? Dans quoi elle s'inscrit ? Comment elle est produite ? Par qui elle est produite ? Est-ce que l'œuvre est affectée par celui qui l'a produite. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Enfin, on peut se poser la question par rapport à beaucoup d'artistes. Cette question, on ne se la pose pas, par exemple, si on prend un auteur, comme un auteur que j'adore, mais vraiment que j'adore, qui s'appelle Inkoli Jean Bofan, qui est écrivain kino-congolais. C'est un auteur africain. Donc, on ne se pose pas cette question-là. On s'en fout, d'ailleurs, de cette question, puisqu'il est africain et qu'il ne nous raconte pas des romans. Il ne raconte pas des romans qui revendiquent une posture particulière. Là, par exemple, je pense à un roman qu'il a écrit qui s'appelle Congo Incorporation, Le Testament de Bismarck. Je recommande à tout le monde, toujours publié chez Actes Sud, je recommande à tout le monde de lire ce roman qui raconte les dégâts de l'économie libérale en Afrique, mais sans pour autant que la problématique d'origine soit posée. C'est une problématique, enfin c'est une question d'économie libérale qui est posée.
Oui, après ça dépend aussi d'où on parle, d'où on se situe. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que même si on ne pose pas de revendication, même si c'est pas le désir de la personne qui écrit, parfois ce sont les autres aussi qui vont nous renvoyer à cette question de se positionner et on va pas forcément la demander à tout le monde. Mm-hmm. Par exemple, souvent on a ou jusqu'ici, peut-être que ça change, je ne sais pas. Mmh. Mais on n'a pas forcément besoin de se positionner en tant qu'auteur homme, alors que peut-être que la question va être plus posée aux autrices, comment elles se situent. Et donc ça nous pose aussi la question de la norme, comme tu disais, une littérature normale. Donc c'est une question de qu'est-ce qui est accepté. Et finalement, qui est-ce qui doit se justifier ou pas, ou qui est renvoyé à une identité, mais qui fait miroir à d'autres qu'on questionne moins.
C'est ce que dit Percival Everett dans une interview qu'il a donnée. Il dit « Je ne veux pas parler de la question d'Arras. Je veux simplement écrire, simplement être un écrivain. » Et il raconte une anecdote d'un éditeur new-yorkais qui lui fit, à partir d'un livre qu'il avait publié qui s'appelle « Frenzy » sur le dieu grec Dionysos. L'éditeur lui dit « Il est très bien votre livre ». Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les Noirs ?
C'est l'éditeur qui...
Donc Everett, Percival Everett répond, il est difficile d'être pris au sérieux en tant qu'écrivain si on ne vient pas d'une banlieue pourrie ou d'un ghetto du sud profond. Et c'est une question essentielle, quoi. C'est une question vitale. Donc même s'il est... Alors, c'est quand même une problématique américaine. Elle existe aussi ici, mais aux États-Unis, c'est vrai que ces librairies qui sont classées de manière extrêmement spécifique, c'est étrange parce que qu'est-ce qui différencie effectivement un roman d'un auteur noir d'un roman d'un auteur blanc, quoi. Enfin voilà, tout simplement.
Oui, bien sûr. Après, les questions d'enjeux, que ce soit de classe sociale, oui. De racisme, ça existe aussi en France et c'est très bien qu'on se questionne là-dessus. Il y a des fois des réflexions autour de qu'est-ce qu'on va classer dans littérature étrangère, littérature francophone. Enfin, ça se joue à différents endroits aussi.
Ou comme tu le disais d'ailleurs, les littératures de genre. Mm-hmm. Où à un moment donné, on se dit, alors, est-ce que c'est un roman ou est-ce qu'on le classe plutôt en transgenre ou se poser toutes ces questions qui, a priori, on pourrait dire, n'ont rien à voir avec l'objet en lui-même, quoi.
Et j'ai l'impression que le travail, il doit surtout se jouer du côté de nous ou des autres qui recevons l'œuvre.
Oui.
En fait, et de comment on l'observe et quelle étiquette on va lui mettre avant de la renvoyer, justement, de la signer dans une petite case qui nous permet de la comprendre ou bien de faire un raccourci qui n'a rien à voir. Et c'est dommage.
Oui, et puis c'est une manière de réduire les choses, de les réduire à leur. Et de les assigner, ce qui est effectivement la dernière chose à faire qu'on puisse faire avec une œuvre d'art ou avec quoi d'autre, quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, bien sûr.
Et je pense qu'on ne va jamais. C'est un gros débat que tu as ouvert là, on ne va pas réussir à le. à le terminer, mais c'est très bien. Et puis après, c'est aussi intéressant de savoir d'où la personne parle, parce que effectivement, on peut distinguer les œuvres des artistes ou non. Alors ça, c'est encore un autre grand débat, mais forcément, il y a des choses qu'on peut pas imaginer ou moins, ou en tout cas qu'on va pas forcément être capable d'imaginer si on n'en a pas fait l'expérience ou si on ne nous l'a pas directement raconté. Donc forcément, l'expérience de vie vient jouer aussi sur la capacité du récit.
Bien sûr.
En tout cas, j'imagine.
Bien sûr.
Est-ce que tu as d'autres recommandations, ouvertures, petites choses dans ta besace?
Alors, dans ma besace, maintenant, moi, une fois que j'ai parlé de Incoli Jean Bofan, j'ai tout dit parce que de toute façon, je ne veux pas être parasiter mon message par autre chose parce que je pense que c'est un auteur éblouissant et un auteur magnifique avec une plume extraordinaire. Bon, il y a bien entendu, je pourrais reparler, mais ça a déjà été tellement fait, de Colson Whitehead avec son dernier livre qui s'appelle Nichols Boy, dont moi je ne suis pas forcément convaincu de la qualité, même s'il a eu le prix Pulitzer. Je préfère de loin Underground Railroad, qui est un roman plus ample, plus lyrique et plus puissant de toute façon. Donc voilà, ça c'est si je devais, voilà mes recommandations, ce serait celle-là pour l'ouverture ce soir.
D'accord. Bon, moi, je fais une mini ouverture, parce que j'essaye quand même d'apporter mon petit caillou à l'édifice de cette chronique. Quand tu m'as dit le thème Black is Black, moi, ça m'a fait penser à un livre, alors qui est complètement différent, parce que là, on n'est pas du tout dans la question du roman ou de la fiction. C'est un recueil de textes écrit par Steve Biko. Je ne sais pas si tu connais Steve Biko.
Oui.
Je resitue quand même un militant donc pour l'égalité des droits en Afrique du Sud. Donc là, on est dans un contexte, dans le contexte de l'Afrique du Sud sous apartheid, avec vraiment un développement séparé, institutionnalisé de façon politique entre les Blancs, les Noirs et les Métis. Enfin, bon, un système complexe et très inégalitaire. Et Steve Biko donc, est né en 1946. Il a été assassiné par la police sud-africaine en 1977. Et dans Conscience Noire, donc c'est un recueil qui a été édité en France il y a quelques années aux éditions Amsterdam. C'est un recueil de textes qu'il a écrit entre 69 et 77. des textes qu'il a pu écrire aussi en étant assez jeune, en ayant une vingtaine d'années, en militant, etc. Et qui sont très intéressants, en fait, pour poser la question de cet enjeu, qui là n'est pas du tout anecdotique ni accessoire, hein, puisque c'est vraiment la vie des personnes, et en l'occurrence, leur mort possible, et qui, en fait, soulève différentes questions. Par exemple, que faire des libéraux blancs en Afrique du Sud qui sont aux côtés de la lutte anti-apartheid ? Est-ce que c'est légitime ou non ? Est-ce qu'ils ont la même urgence ou non ? Enfin, ils soulèvent plein d'arguments. La question de la non-mixité dans la lutte qui revient à poser un syndicat, etc. etc. Et c'est plein de portes d'entrée. C'est des textes assez courts, mais très intéressants pour réfléchir. Aussi en termes de témoignages historiques, et puis qui peuvent être transposés à d'autres situations aussi. Et puis oui, c'est quand même une personnalité importante.
Je me souviens de la période où il est assassiné, puisque j'étais déjà né et que j'étais déjà grand, ce qui trahit toujours beaucoup de choses de la personne qui parle. Mais par contre, je connaissais pas ce livre, et donc effectivement, moi, ces questions-là me passionnent. Alors, puisqu'on est de rebond en rebond, je sors de la lecture du dernier livre de Deon Meyer, qui est un polar, qui s'appelle Proie, qui est un auteur sud-africain, qui est blanc, mais qui pose un regard sur l'Afrique du Sud. Moi, tous ses romans, je les adore, qui pose un vrai roman sur l'Afrique du Sud, avec lui, cette fois-ci, dans ce roman-là, une strate politique sur le regard qu'il a sur la corruption des élites africaines, sud-africaines, qui est vraiment un roman extrêmement brillant. Très anecdotique, c'est un polar, mais c'est pas grave. Cette strate politique qu'il a mise dans ce roman, je la trouve, moi j'ai découvert des choses sur l'Afrique du Sud que j'imaginais pas, sur la corruption, c'est assez effarant d'ailleurs. Et donc, donc ça nous renvoie, enfin on reste là vraiment connecté, mais je note vraiment le livre de Steve Biko, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, oui, tout à fait.
Ouais, et en termes de témoignages, c'est des tracts, des choses parfois publiées de façon clandestine, ou de positionnement, enfin c'est riche, c'est un peu, on est au cœur de l'histoire, quoi.
Ouais. Bon. Ben merci du conseil.
Merci à toi, Luc. On se retrouve dans 2 semaines.
Dans 2 semaines.
Tu sais déjà de quoi tu vas nous parler ?
Oh, je vais parler de politique. Je vais parler d'une d'une période politique toute particulière, avec un auteur éblouissant, fantastique et merveilleux qui s'appelle Raoul Wenegem, voilà, et qui nous donne des leçons de vie encore aujourd'hui.
Et comme on a dérivé et dérivé jusqu'à l'Afrique du Sud, je vous propose de poursuivre cette oreille curieuse sur Radio G, bien entendu, avec un titre du groupe Urban Village. Ils ont sorti leur premier album début janvier de cette année. Et ce sont 4 musiciens originaires de Soweto, un township historique à l'ouest de Johannesburg. C'est un groupe qui est un peu à contre-courant des tendances musicales en Afrique du Sud, actuellement, où on entend beaucoup de house, d'électro, d'amapiano, qui sont aussi des super musiques que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Je vous avais parlé d'un podcast qui s'appelle Faya, vous pouvez découvrir plein de choses dedans. En tout cas, pour revenir à Urban Village, ils ont beaucoup d'influences, que ce soit des musiques traditionnelles, mais aussi de la musique populaire occidentale, et bien sûr, des nombreuses cultures de l'Afrique du Sud, un pays riche de ses 11 langues officielles et au moins, si ce n'est plus, tout autant de cultures. On écoute le titre Makolo Yanga, qui est sorti sur leur premier album, et j'ai oublié s'il est noté là, si vous me laissez un instant pour me dépatouiller de mes 1000 notes. Leur premier album s'appelle Undo Dolo. Sing como
C'est comment
continuer à découvrir Urban Village avec un des 11 autres titres de leur premier album. Et nous, on va terminer cette émission avec un nouveau reportage consacré au dispositif du service civique.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engage au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
En
Mayenne, les associations et structures qui s'interrogent sur le service civique et pensent pourquoi pas à engager des volontaires peuvent contacter Andrea Diaz. C'est la coordinatrice du dispositif service civique à la Ligue de l'enseignement et de la Mayenne. Elle a plusieurs casquettes, l'organisation des formations pour les volontaires, mais aussi l'accompagnement des structures.
On coordonne un programme départemental de formation avec deux autres organismes, le CAS et la DDCSPP. J'interviens également sur la formation pour les organismes d'accueil, tuteurs, tutrices de volontaires en service civique. Donc c'est un programme départemental en partenariat avec l'association Unicité. Et puis, donc ça c'est dans le cadre d'un marché national porté par l'Agence du service civique. Bah, nous, à la Ligue de l'enseignement, en fait, on va accueillir sur l'année une quarantaine de volontaires en service civique. Donc il faut à la fois faire le lien avec les structures qui souhaitent s'engager dans ce dispositif-là. Donc ça c'est une première partie, la mise en relation avec ces structures, les accompagner sur la création de la fiche mission, la sélection des volontaires en service civique, la mise en place de la mission de service civique. Et puis, je fais le lien également avec les jeunes qui sont en recherche d'une mission de service civique. Donc, je peux les accompagner sur des temps individuels pour les rencontrer, les informer sur le dispositif. Cette année, moi, je trouve qu'il y a quand même un certain équilibre cette année. Les structures n'ont pas été réticentes, justement, à s'engager à nouveau sur l'accueil de volontaires en service civique. Donc, on a quand même une belle diversité de missions à proposer sur l'ensemble du département et sur plein de secteurs d'activités différents. Moi, généralement, je dis que pour une mission de service civique, c'est 7 à 8 candidatures, sachant que sur 7 à 8 candidatures, on arrive à rencontrer en entretien de motivation 3 à 4 jeunes. Voilà, ça c'est la moyenne. Il y a des structures qui ont entendu parler du dispositif, mais sans véritablement savoir quelles sont les conditions en fait pour accueillir un volontaire, ce que ça nécessite comme temps d'accompagnement, de tutorat. Donc moi, je vais renseigner les structures de ce point de vue-là. Parfois, on me pose la question aussi, c'est quoi le mieux pour la structure ? Ce serait d'accueillir un stagiaire ou d'accueillir un volontaire en service civique. Donc moi, ça me permet de donner les informations nécessaires aux structures pour qu'elles prennent leurs décisions en connaissance de cause, parce qu'effectivement, c'est deux statuts différents et on confie pas la même mission à un stagiaire qu'à un volontaire en service civique. Si les structures, après avoir pris connaissance des conditions d'accueil d'un volontaire en service civique, si elles sont partantes, dans ce cas-là, moi, je les accompagne sur toute la suite, en fait, d'entrée dans le dispositif, donc sur la création de la mission, la publication de la fiche mission, la sélection des volontaires, etc. Et bon, je dirais qu'une des craintes principales, peut-être, pour les structures, c'est le temps, justement, que nécessite le tutorat et l'accompagnement d'un volontaire dans la mission, parce que les volontaires rentrent sur la base de motivation. Donc les jeunes ne sont pas forcément expérimentés ou diplômés dans le domaine de la mission, donc il faut que les structures aient conscience de ça aussi. Il faut mettre en place un parcours d'accueil et de formation pour que les jeunes aient les connaissances suffisantes pour réaliser leur mission de service civique. En fait, c'est une obligation, hein, la formation des organismes d'accueil. Toutes les personnes qui sont tuteurs, tutrices de volontaires sont dans l'obligation de se former justement au premier module. Donc c'est une journée complète de formation sur la découverte du rôle du tuteur, en fait. C'est aussi l'occasion d'être sur du partage d'expérience entre les organismes d'accueil, sur le partage de ressources et d'outils à mettre en place aussi pour accompagner et suivre le volontaire dans sa mission de service civique. Mais c'est pas suffisant. Je pense qu'en amont, il faut prendre quand même connaissance et conscience du temps que ça va nécessiter d'accueillir et d'accompagner un volontaire. Et puis c'est un projet collectif aussi. On va former un tuteur ou une tutrice, parce qu'on est sur ce principe de tutorat, en fait, quand on parle du service civique. Mais c'est bien la structure d'accueil qui fait le choix collectivement d'accueillir et d'accompagner un volontaire.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Et c'est la fin de l'Oreille Curieuse pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute toute cette soirée et toute cette semaine. Si vous avez envie de la réécouter, cette émission, elle est disponible en podcast sur le site de Radio G. À la page de l'émission, vous savez tout ça par cœur. On se retrouvera lundi à 18h10 et il y aura de la musique et des conseils nutrition dans la future émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre, à nous écrire via le site internet de Radio G ou bien tout simplement les pages de nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. À lundi.
Exactly what I'm gonna say is just another